Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité.
Et donc, je vais ouvrir le bal. En revenant un petit peu sur le cahier des charges donc de cette sixième rencontre AAU, visant à exprimer les mondes perçus avec trois entrées, une entrée captation, une entrée traduction et une entrée médiation, traduite dans les faits sous forme de trois tables rondes et un temps d'exposition. Une première table ronde dédiée à l'immersion et à la mise en situation, une deuxième dédiée à l'expression par le langage, avec en sous-titre « Modélisation et récit », et puis une troisième, qu'on vient d'entendre, autour du passage du terrain à l'image. Et moi, je dirais, le souvenir que je garderai de cette journée, il renvoie à la fois au tout début, aux premières diapositives de Nadine, et à la dernière prise de parole de Laurine. Et je dirais même, il me renvoie à une évocation bien plus lointaine, puisque ça renvoie à un discours d'Alain Berthoz, qui date de 2008, qui a sûrement été exprimé lors du premier congrès Ambiance à Grenoble. Et Alain Berthoz, à l'époque, nous enseignait que la perception est une action simulée. C'est-à-dire, quelque part, une projection à laquelle on associe une dépense énergétique, une projection dans un lieu à laquelle on associe une dépense énergétique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Nadine, ce matin, nous a parlé de transport d'énergie dans des réseaux de neurones, et puis que tout à l'heure, là, il n'y a pas très longtemps, Laurine nous a parlé de dissonance, d'une dissonance, il faudrait que je retrouve les termes dans cet ensemble de fatras de feuilles que j'ai devant moi, d'une dissonance entre ce que les acteurs de son expérience pouvaient éprouver dans le casque de réalité virtuelle, et puis ce qu'ils pouvaient ensuite éprouver sur le terrain lui-même, en montant cette rampe, voilà, dans ces architectures curvilinéaires dont elle a pu nous parler. Voilà, ça c'est le premier trait saillant que je garde en mémoire. Le deuxième, c'est, je dirais, l'insistance autour de cette notion d'apprentissage qui s'est déclinée multiplement. Nadine nous a, à plusieurs reprises, dit l'importance de cet apprentissage. Et d'apprentissage, il en a encore été question, toujours sur cette fin de journée, mais aussi tout au long de la journée, avec, par exemple, l'entraînement de réseaux de neurones au moyen de réseaux de neurones artificiels, voilà, l'entraînement autour de jeux d'images, ou, je retrouve mes notes, ou de questions d'apprentissage, là, suite à la question, je crois, de Pascal. Il faut que j'arrête de faire du sans-filet. De Nicolas. Plus on voit d'images 360, bref, plus on éprouve l'image 360 et plus on, voilà, tu nous as parlé de rapport à la surface avec ces images à 360 degrés, pardon, et on répond, je ne sais plus trop qui t'a parlé, d'habituation, c'est peut-être Benjamin, voilà, d'habituation autour de ces nouvelles formes de représentation. Bon, il faudrait vraiment que je retrouve mes notes, mais voilà, ça c'est le deuxième trait saillant. Et le troisième trait saillant, mais je ne vais peut-être pas bien l'exprimer, c'est justement l'importance de faire exprimer, c'est-à-dire... et là, je renvoie à la fois à ces villes, aux travaux de ces villes autour de la carte aux sensibles, et puis à la discussion qu'il y a pu y avoir autour de ça, ce que tu disais notamment Pascal, hein. La carte sensible ne nous intéresse peut-être pas pour elle-même, mais en fait pour tout ce qu'elle permet d'exprimer. Et l'expression autour de l'objet comme moyen de labelliser l'objet d'étude, là encore, j'utilise, et je vous prie de m'en excuser, des termes qui viennent de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones. Voilà, l'importance pour l'entraînement de ces énormes architectures qui visent, pardon, par biomimétisme, à essayer de reproduire une forme d'expertise. Voilà, ont besoin, pour leur entraînement, d'avoir cette labellisation, et je te donne. Voilà, alors une fois que je vous ai présenté ces trois points saillants, j'ai envie de repasser maintenant avec vous, ça va être un peu laborieux, mais l'ensemble de ce que j'ai capté sur ces trois tables rondes, et je vais essayer de le faire assez rapidement. Alors, je reviens à Nadine, qui, pour introduire, je dirais, la journée, nous a parlé de cortex, d'aire sensorielle, d'hippocampe, d'amygdale, de système limbique, etc., et d'aire sensorielle spécialisée. Alors, j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait une espèce d'aller-retour qui se passait quelque part entre mes deux oreilles, et sûrement entre les vôtres, qui nous permettait de partir d'aire sensorielle spécialisée pour converger vers une espèce d'hub d'information, hein, c'est les termes qu'elle a employés, un hub informationnel qui était utilisé un peu comme un index, il ne stockait pas lui-même, mais renvoyait vers des informations. Je n'ai pas exactement les termes qu'elle a utilisés sous les yeux, mais ce n'est pas très grave. Elle nous a parlé d'encodage et puis de refragmentation. Bref, voilà, une espèce de savoir consolider, qu'on défragmente, qu'on refragmente, des allers-retours, et puis tout ça au service de quoi? Ben d'une création de nouvelles connexions dans ce fameux réseau de neurones qui s'intercale entre quelque part au niveau de nos têtes, et d'une forme de plasticité neuronale, même si ce n'est pas des termes qu'elle a utilisés, mais voilà, création de nouvelles connexions. Bref, un rapport à la biologie qui m'apparaît évident. Nous sommes des animaux sensibles. Nous sommes des animaux sensibles qui partageons un même appareillage sensoriel, avec pour certains peut-être des déficiences que d'autres n'ont pas. Mais, nous a-t-elle dit, chacun façonne son cerveau, dans son cerveau, pardon, des poids différents. Et là encore, dans cette vision biomimétique, cette notion de poids m'évoque des discussions qu'on a pu avoir avec Benjamin notamment, et tous ceux qui exploitent ce type d'outils dans le monde du numérique. Michel, ensuite, nous a parlé de questions de fidélité lors de la restitution de cette perception dans ces dispositifs HMD, là, ces fameux casques. Hein. Elle nous a dit comment représenter l'éblouissement dans un dispositif qui est finalement très pauvre, puisqu'il a une gamme de couleurs très restreinte. Hein, elle nous a parlé HDR, une luminance de 80 candela par mètre carré, une faible résolution, une faible latence, une faible ouverture du champ de vision. Bref, je dirais quelque part un parti pris d'extrême pauvreté pour essayer de représenter quelque chose d'hyper polysensoriel, d'hyper complexe quelque part. Et la question de cette fidélité, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle renvoie alors à des algorithmes de tone mapping que je ne maîtrise pas, mais à la question de comment essayer de travailler nos modèles de manière à restituer toute cette richesse de timbre dans toutes les dimensions sensorielles. Là, il s'agit de dimensions du visuel. Par exemple, elle a pris l'exemple de comment représenter l'éblouissement? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Bref, ce parti pris d'appauvrissement du réel complique bien sûr la restitution, et j'ai trouvé que c'est quelque chose qui revenait aussi au cours de la journée de ce qui a suivi. Il faut que je fasse attention. Rima, elle, nous a parlé de superposition du virtuel au réel dans le cadre de la réalité augmentée, d'enrichissement, d'appauvrissement, là encore, hein, parce que la réalité augmentée peut être une réalité diminuée. Et d'ailleurs, est-ce qu'augmenter la réalité, ce n'est pas quelque part la diminuer? Parce que la nature est intrinsèquement complexe et que tout ce qu'on produit, nous, l'est beaucoup moins. Elle nous a parlé, en réponse à cette ère de réalité virtuelle et d'interaction sociale dans cet environnement de réalité virtuelle avec des dispositifs comme Corollis, par exemple, de problématiques de représentation de soi au milieu des autres, d'avatar, de représentation de soi dans la communauté créée par un autre, aux côtés de 50 à 500 participants, nous a-t-elle dit. Elle nous a parlé d'intelligence artificielle, des apports de ce qu'on appelle ailleurs le no-code. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, Michel a apporté une première réponse à mes yeux avec ces deux enjeux, hein, la maîtrise des ambiances lumineuses dans les espaces construits et puis la restitution d'expériences sensibles, d'expériences vécues. Hein. Il s'agit bien de transmettre et organiser de la connaissance et de constituer des références quelque part. Et ça, je trouve que ça, il y a eu un écho plus tard avec la présentation faite par Abdelkader qui nous disait que le langage avait deux objectifs, organiser et transmettre. Organiser, modéliser, c'est le terme qu'il a employé. Modéliser ce qu'on cherche à représenter ensuite et transmettre. Et associé à ces deux enjeux, l'importance de chercher à mettre en regard l'expérience sensible d'un côté et les aspects quantitatifs de l'autre. Pourquoi? Ben, justement pour essayer de démultiplier la connaissance autour de ces objets complexes que sont nos interactions aux configurations qui nous environnent et les émotions qu'elles peuvent provoquer. Et Nadine, j'ai trouvé sa réaction sur à ce propos très intéressante, hein, elle encourage très fortement, hein, surtout, elle rajoute, c'est très bien, surtout qu'on ne connaît pas les canaux catastrophiques, préférentiels, il faut augmenter les chances au maximum d'imprégnation. Bref, elle nous a parlé de phases d'apprentissage et de la nécessité pour ces phases d'apprentissage de justement peut-être venir épauler le sensible avec ses aspects quantitatifs. Alors j'ai trouvé, mais là encore, que ça m'évoquait les phases de training, d'apprentissage des réseaux de neurones, par exemple, qu'on peut pratiquer en IA. Et je me suis posé la question de, ça n'a pas été évoqué, mais de l'overfitting, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une transposition de l'overfitting? Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais le fait de surcharger le réseau de neurones d'information, est-ce qu'il y a une transposition possible dans le registre biologique? Bon, bref. C'est une question. C'est pour un aparté. Faut traduire. Rima est revenue sur Corollis, la notion d'échelle, de proportion, l'importance de ce dispositif pour la prise de décision. Et ça a fait dire à Yannick, on y entre avec son corps tout entier. Et la question du corps a été reprise par Dimitra, qui nous a dit le corps comme clé d'entrée dans le monde, comme clé d'évaluation de l'environnement immédiat. Hein? Le corps est machine de technicité, a-t-elle dit. Mais c'est aussi un médium dans la captation de ce qui n'est pas mesurable. Parce que, a-t-elle ajouté, il y a toujours quelque chose qui échappe à l'analyse ex situ. Ce qu'on éprouve sur place peut relever de quelque chose qui est difficilement rationalisable. Hein. Et d'ailleurs, elle a parlé de cerveau reptilien et de ces aspects-là. Et à propos de cette immersion, Nadine, là encore, a réagi en disant que le Graal, c'est l'immersion totale, là où le cerveau ne peut plus faire la différence. Et cette immersion du corps en entier, cette immersion totale, j'ai trouvé qu'elle trouvait quelque part un écho dans le propos qui a suivi d'immersion en apnée à propos de l'immersion, enfin des récits d'enfants qu'a pu nous restituer Nathalie. Lors de la table ronde suivante. Hein. Je continue, pardon. Alors, Riemann nous a parlé de. J'ai presque fini. Hein. D'outils pour rendre parlant, hein, d'utiliser la part d'imaginaire des outils pour rendre parlant les architectures. Et à ce propos, on nous a parlé d'IA. Et je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Hein. Les IA ne sont pas encore des outils de création, ce sont surtout des outils de génération. C'est des perroquets qui ont un tel répertoire qu'ils nous donnent l'illusion de créer du contenu, mais je pense que ce n'est pas le cas. Alors, oui, il y a un propos aussi, mais je suis désolé, je me rends compte que je ne parlerai pas de toute la journée, mais je voulais aussi revenir là-dessus sur ce qu'a pu nous dire Nadine sur l'absence de superviseur et le fait que la connaissance naissait d'une forme de criticalité à bas niveau, criticalité qui s'auto-organise. Bref, je switch très vite sur. Non, non, bah je vais m'arrêter là. Si je retrouve quelque chose en complément, je t'en prie, Laurent, excuse-moi.